Nous sommes en train de continuer une étude dans la parole de Dieu au sujet de croire Dieu et croire ses promesses pour arriver à certains résultats, parce que la Bible, elle nous parle que tous les changements qui s'opèrent dans la vie d'un chrétien, c'est toujours parce qu'on a cru Dieu, on croit à sa parole, on s'attache à ses promesses, on demande du secours au Seigneur, c'est là que le processus de changement s'opère. C'est là aussi qu'on est exaucé, parce que c'est en s'appuyant sur ses promesses, en confessant ce que nous croyons, en s'attendant sur Dieu qui répond à ses promesses, c'est ça la foi qui obtient. Parce qu'on peut avoir une foi inactive, dans un sens, une croyance, qu'on croit que Jésus est mort sur la croix, mais ça c'est au départ, on croit que Jésus est mort sur la croix, payez-nous pour nos péchés, mais par la suite, on peut développer une relation de foi, une foi sincère, une foi vivante, une foi active, qui confesse, qui croit, puis qui s'attend sur Dieu, puis qui voit des résultats. Aujourd'hui, le sujet qu'on va regarder ensemble, c'est sûr que ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais c'est quand même, ça fait partie de la parole de Dieu. Croire Dieu et ses promesses pour accepter la soumission à Dieu. C'est sûr que ça, c'est quelque chose qui fait quand même peur quand on dit qu'on fait confiance à Dieu à 100%, puis on accepte de se soumettre à sa volonté. Dieu, il a préparé des œuvres, Dieu a préparé, il voit d'avance notre vie, puis il sait déjà dans ce qu'il veut nous amener. Puis nous, quand on s'engage à suivre le Seigneur, parce que c'est pas juste de voter pour Jésus, on s'engage à devenir son disciple, on veut le suivre, on veut le servir, on veut marcher selon sa parole, mais quand on dit ça, on veut marcher selon sa volonté. Puis là, il faut croire Dieu, puis croire ses promesses pour accepter la soumission à sa volonté. Dieu veut nous conduire, puis je crois qu'on a tout à gagner à s'accrocher à lui. On va avoir un grand défi dans le cheminement du chrétien, parce que c'est le défi du renoncement à soi-même, pour vivre ce que Dieu lui veut pour nous. Puis ça fait toute une différence. C'est d'accepter la soumission à Dieu au milieu des épreuves de la vie. Ça, c'est encore plus dur, parce que on vit toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés, puis tout le monde le sait présentement, dans le confinement qu'on est en train de vivre, présentement, ça nous crée des pressions. On a plus de pressions à la maison, peut-être des pressions financières, peut-être qu'il y a des pressions qui sont dues à qu'est-ce qu'on vit de la mortalité, on a de nos amis qui sont morts, de nos parents qui sont morts, on vit des pressions sur toutes les bords, on a peur d'être nous-mêmes malades, peut-être on est malade, peut-être que on est en attente d'exaucement de prière pour recevoir la guérison de Dieu. Peu importe ce qu'on est en train de vivre présentement, le Seigneur le sait, le Seigneur le voit, mais il veut quand même que dans l'épreuve, qu'on apprenne à se soumettre à lui, puis à s'engager à suivre, à faire sa volonté. Dans les Écritures, il y a plein de promesses, puis on en a vu déjà beaucoup, puis on en voit encore quelques-unes aujourd'hui, des promesses sur le secours promis par Dieu dans nos moments difficiles. On en a parlé déjà du psaume 23 dans le verset 4, qui nous parle de David, qui dit « Quand que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Qu'est-ce qui fait que David savait qu'il avait cette confiance que Dieu était avec lui? Ben, c'est parce que il vivait la houlette et le bâton de Dieu qui le rassurait. C'est quoi ça, la houlette et le bâton de Dieu? C'est toutes les petites quatre choses que Dieu fait dans la vie, dans notre vie, pour nous montrer qu'il est là. Il nous donne des paroles dans notre esprit, des encouragements par la bouche d'un frère, par un prophète, dans une prédication, en lisant la Bible. Il nous exauce une prière, il nous fait ressentir sa présence quand on loue le Seigneur, qu'on l'adore de tout notre cœur. Mais toutes ces choses-là, c'est les moments précieux qu'un chrétien vit pour savoir que Dieu est avec lui. Puis si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? C'est ça qui fait qu'on est rassuré dans les moments difficiles. David, il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu crains pas le mal. Puis qu'est-ce qui peut nous arriver? Jésus dit, de pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, puis qu'après, ils peuvent rien faire. La crainte, c'est de craindre Dieu. Mais si tu ne crains aucun mal parce que tu sais que Dieu est avec toi, tu n'as pas à craindre, peu importe ce qui arrive dans ta vie, Dieu t'emmène dans le chemin que lui a préparé. Amen. Le Seigneur veut nous garder sous sa protection, autant spirituellement que physiquement. Il y a des promesses aussi pour ça, dans le psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu, c'est le bon endroit pour se réfugier, y faire confiance, y remettre notre vie. Se réfugier en Dieu, c'est dire, Seigneur, prends ma vie. On a vu tantôt dans le début de la réunion que Dieu veut qu'on offre nos corps en sacrifice vivant, lui donner notre vie, lui faire confiance, trouver en lui un refuge, puis c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le plan de Dieu va parfaitement s'accomplir dans ta vie au moment où tu vas lui donner ta vie. Souvent, on s'appuie sur la promesse, mais dans quelle attitude attendons-nous? C'est ça aussi qui fait une différence. Parce que tu peux savoir que Dieu, c'est le sauveur, Dieu va t'aider, Dieu va te secourir. Tu vas décider de lui remettre puis de prier. Mais quelle est notre attitude en attendant qu'il nous exauce? Ça peut changer le plan de Dieu pour ta vie, puis que Dieu t'accorde ses bénédictions parce que tu as la bonne attitude. Tu as confiance en lui, mais aussi tu réagis de la bonne façon. On va voir des aspects dans notre vie de ce qu'on vit présentement avec ce que la parole de Dieu nous parle pour nous amener à saisir qu'il y a un état d'esprit qu'un chrétien doit être, un état que quand tu dis que tu fais ta confiance en Dieu, que tu y mets en lui ta vie, mais il y a une manière de vivre que tu vas vivre sur cette terre qui va démontrer à Dieu que vraiment tu y fais confiance. Souvent, on s'appuie sur sa promesse, mais quelle est notre attitude? Mais la parole nous parle-t-elle de certaines attitudes qui doivent accompagner les gens dans leur attente? Oui, il y a plein de passages, mais il y en a certains qu'on veut regarder aujourd'hui pour comprendre. Ça va nous aider aussi à comprendre ce qu'on va voir, les quelques versets, à comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, la pression qu'on vit avec tout ce virus-là qui court des rues, puis qu'il peut frapper n'importe qui. Pourquoi que Dieu permet ça? Ça a-tu un but? Oui, ça a un but. Dans la situation d'épreuve qu'on vit présentement, Dieu veut agir sur deux plans. C'est pas pour rien que ça l'arrive. C'est pas quelque chose qui arrive puis que Dieu il s'en attendait pas puis que là c'est arrivé puis il est trop tard puis là il dit arrangez-vous. Non. Dieu il a un plan dans tout cela. Il avait annoncé d'avance ce genre de situation là. Mais il sert de tout cela aussi pour un but. Dieu permet cela puis Dieu même il en envoie de ces situations là dans le but de faire une pression. On parle de deux domaines dans lesquels Dieu veut travailler. Dieu veut travailler sur l'humanité entière qui ne le connaît pas. Autant que Dieu a donné des moments, des longs moments où ce que les gens étaient libres de faire ce qu'ils voulaient, puis qu'ils étaient libres d'aller à Dieu ou pas, puis que les gens n'y ont pas été, puis que là, Dieu se sert de d'autres moyens pour mettre de la pression, pour que les gens réalisent qu'il est là, puis que les gens se mettent à crier à Dieu pour recevoir le secours. Dieu veut amener les gens au salut. Puis le premier point que je vais regarder avec vous dans deux versets, le premier, c'est que Dieu veut déstabiliser les appuis humains, les appuis dans lesquels les hommes se confient, que ce soit dans la science, les appuis dans l'argent, dans les appuis dans la politique, parce que les gens regardent beaucoup les humains qui dirigent comme étant des dieux, puis qu'ils vont être leur secours dans leur vie. Dieu ébranle tout présentement, puis ça, c'est une des manières que Dieu ébranle, mais dans la parole de Dieu, ça nous parle aussi de d'autres manières que Dieu va mettre en place, que l'on va subir, dans le but d'amener les gens à lâcher leur appui sur les hommes, puis à se tourner vers Dieu. Dieu va amener les gens à la repentance en servant de ce genre de situation-là. Parce que Dieu fait un appel à toute l'humanité à se repentir puis à se tourner vers lui. Dans Luc, chapitre 13, les versets 4 et 5, ça nous parle d'un exemple, c'est Jésus qui nous en a parlé, sur un événement qui s'était produit parmi le peuple juif. Une tour s'est effondrée, elle a tombé sur des gens, puis elle les a écrasés, puis ils en sont morts. C'est quand même catastrophique, ça nous dit pas combien de personnes qui sont décédées à ce moment-là, mais ça peut être des dizaines, des centaines. Le but, c'est l'enseignement de Jésus, la réponse de Jésus à cet événement-là. Dans Luc 13, les versets 4 et 5, il dit, là, Jésus parlait de plusieurs exemples, là, il parle de l'exemple, de ces 18 personnes qui sont tombées, sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Des gens qui sont morts parce que la tour est tombée sur eux. Croyez-vous qu'ils fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Quand on regarde le fléau qui est en train de s'abattre présentement, la plaie, la peste, une peste, un virus qui tue une centaine de mille de personnes qui est morte dans le monde, est-ce que ces gens-là étaient plus pécheurs que les autres? Pas du tout. Est-ce que les gens sont morts puis qu'il n'y avait pas de raison pour laquelle ils sont morts? Pas du tout. Dieu voit tout ce qui est arrivé, puis il les connaît, ces gens-là qui sont décédés. C'était vu déjà par Dieu, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens. Les gens sont morts. Puis oui, c'est de valeur. Oui, ça fait de la peine. Mais Jésus, sa réponse est étonnante. Dans le verset 5, il dit non, ils ne sont pas plus pécheurs que les autres. Non, je vous le dis. Mais si vous ne repentez, vous périrez tous également. Wow! C'est pas un verset qui est léger. Autant qu'il dit, les gens qui meurent à cause des fléaux, des problèmes qui arrivent dans le monde, des cataclysmes, il y a eu des tsunamis, il y a eu 100 000 morts, des tremblements de terre qui ont eu 100 000 morts, sans compter les guerres comme la guerre mondiale qui a eu 70 millions de morts, des pestes qui ont eu des millions de morts, il y en a eu d'autres dans l'histoire des pestes, puis Dieu à tout moment a permis que les choses arrivent dans le but de mettre une pression sur la planète, sur les gens qui vivent, puis amener les gens à crier à Dieu pour leur salut. Est-ce qu'ils étaient plus pécheurs? Non. Est-ce que Dieu voulait servir de cela comme exemple? Oui. Dieu veut que les gens comprennent que si on ne se repent pas, si on ne se tourne pas vers le Seigneur, on va tous périr également. Un autre passage dans l'Apocalypse, Dieu parle d'une vision de plusieurs sceaux et de trompettes qui ont commencé à s'abattre sur l'humanité. C'est des choses que déjà, qu'on voit qui sont en train de s'accomplir dans l'humanité, en parlant de famine mondiale, qu'un quart de la planète qui souffre de la faim. Un tiers de la planète même, qui souffre de la faim, de peste, puis des gens meurent par des maladies, par le manque de nourriture, puis sans compter les guerres, et etc. La Bible nous en parle que c'est des choses décrétées par Dieu, puis que Dieu envoie sur l'humanité afin de mettre une pression. De mettre une pression pour amener les gens à la repentance. La même idée. Dieu veut qu'on serve d'exemple de ce qu'on voit pour réaliser qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de secours, il n'y a pas de vie sans fin, de vie éternelle, sans se tourner vers Dieu puis de se repentir. Dans Apocalypse, chapitre 9, le verset 20, ça dit, suite aux catastrophes qui étaient arrivées dans les sceaux et les trompettes, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas de leurs œuvres, de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent voir, ni entendre, ni marcher. Voyez-vous, le but de Dieu dans cela, c'est de que les hommes arrêtent de mettre leur confiance, de mettre leur foi dans des faux dieux. Des idoles de bois, d'argent, de pierre ou en or, ou de même les œuvres de leurs mains, leur méchanceté, leurs actions mauvaises, leur rébellion contre Dieu. Dieu envoie ces choses-là dans le but de les amener à la repentance. Il y en a qui vont se convertir, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas se repentir. Mais quand les prédicateurs de l'Évangile vous annoncent le message, c'est dans le but de vous appeler. de vous donner l'idée, hey, il y a un Dieu, on peut l'invoquer, on peut chercher en lui notre secours, puis on peut être sauvé. C'est un Dieu-là a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le but de nous sauver. Voyez-vous, il y a un but pour cela. Dieu veut sauver l'humanité à travers les cataclysmes, puis les fléaux, puis tout ce qui y est envoyé présentement. Quand on parle dans ce verset-là, il dit « ceux qui ne furent pas tués par ces fléaux ». Le mot « fléau » qu'il y a là, dans l'original, Louis II, il a traduit ça par « coup »,« châtiment ». Plaies, fléaux, blessures, c'est des choses que Dieu envoie dans le but de mettre de la pression sur les humains. Il veut que les gens se repentent puis qu'ils se tournent vers Dieu. Le deuxième aspect dans lequel le Seigneur veut travailler à travers ces fléaux-là, puis c'est quand Dieu frappe la terre, Dieu il établit des jugements sur l'humanité dans le but que les gens se repentent. Le deuxième élément dans lequel qu'on veut regarder, c'est que le Seigneur veut aussi sonder en profondeur le cœur de ses enfants, puis de les amener à l'obéissance. Autant que Dieu va amener les gens du monde à se repentir, à se tourner vers lui, Dieu, dans ces événements-là, qui a mis en place, ça fait de la pression aussi sur ses enfants, ses enfants, ceux qui sont sauvés, ceux qui marchent avec le Seigneur, ça fait aussi une pression sur eux pour démontrer leur cœur, pour que les gens arrivent à devenir de plus en plus obéissants au Seigneur. On va regarder là-dedans quelques passages qui nous parlent de cela, pour nous démontrer que les jugements de Dieu frappent aussi l'Église. Ce sont des épreuves qui ont pour but de nous amener à l'obéissance. On voit ça dans 1 Pierre 4, le verset 17 à 19. Car c'est le moment où le jugement va commencer, par la maison de Dieu. C'est le moment, c'est quand qui a été le moment que le jugement a commencé à tomber sur le jugement de Dieu? Voilà 2000 ans. Ça fait 2000 ans que Dieu serre la vis à ses enfants. Il y a des jugements qui sont donnés à l'Église. Puis Dieu serre aussi des épreuves de la vie qui sont pour tout le monde, qui sont aussi pour les chrétiens, dans le but de serrer la vis aux chrétiens, dans le but de mettre de la pression sur les chrétiens, dans le but d'amener les chrétiens à vivre complètement pour le Seigneur. On le voit dans ce passage-là. Ça nous dit, or, si c'est par nous qu'il commence, le jugement, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Voyez-vous, si Dieu n'épargne pas ses enfants, puis il donne des jugements aussi sur son Église. Si l'Église se repent, tant mieux, mais ça se repent pas, puis le juste se sauve avec peine, il se fait taper parce qu'il marche pas droit. Dieu sert des événements pour nous ramener à lui, pour nous garder en lui. Si les chrétiens subissent là, qu'est-ce qui va arriver aux gens du monde qui se repentent pas? Verset 19, ça nous dit, ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. C'est là que le verset nous parle encore une fois. Il dit, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, ça veut dire que tu peux être chrétien, avoir donné ta vie au Seigneur, puis être en train de souffrir selon la volonté de Dieu. Ça veut dire Dieu, c'est selon sa volonté que les chrétiens souffrent. Pourquoi? Parce qu'il dit, il nous dit que ceux qui souffrent remettent leur âme au fidèle Créateur. Voyez-vous? La souffrance pour un chrétien devrait emmener le chrétien à donner encore plus sa vie au Seigneur, à se donner au Seigneur, à vouloir vivre le Seigneur, marcher pour le Seigneur, servir le Seigneur, s'en remettre au Seigneur, à se soumettre à sa volonté. C'est ce que ça dit, remettre leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Dans l'épreuve, le chrétien doit réagir en faisant le bien. Souvent, quand ça marche pas comme qu'on veut, on crie, on chiale, on rouspète, on se plaint, on chicane, on cherche des problèmes avec notre prochain, on n'est pas en paix avec personne, on se rebelle contre tout ce qui nous entoure. Quand on souffre, c'est pas juste des chrétiens qui sont comme ça. Tout le monde est comme cela. On se rebelle contre les autorités en place, le gouvernement. On se rebelle contre les lois. On se rebelle contre tout ce qui nous entoure parce qu'on veut pas accepter d'accepter ce qu'on a subi qui était selon la volonté de Dieu. Dieu permet les choses, puis même il fait les choses dans le but qu'on se donne encore plus à lui en faisant ce qui est bien. Fait qu'il faut apprendre, en tant que chrétien, à s'en remettre à Dieu, puis à vivre en faisant du bien dans la situation qui est difficile. C'est là qu'un chrétien donne l'exemple d'accepter la soumission au Créateur. Amen. C'est dans les épreuves que se définit les vrais et les faux chrétiens. Quand la parole nous dit que c'est quand tu veux reconnaître un vrai prophète ou un faux prophète, tu dis t'as ses fruits, tu le reconnais. Quand ça, ses fruits, c'est pas quand ça va bien. Quand ça va mal, tu vas reconnaître les faux prophètes. Ils sont prêts à tout abandonner, ils sont prêts à se rebeller contre Dieu, ils sont prêts à rouspéter contre tout ce qui se passe, à critiquer, à vouloir changer les affaires en brassant et en faisant du mal. Ils sont pas en train de s'en remettre au Créateur, puis de vouloir accepter sa volonté, puis à agir en bien. C'est que ça réagit tout croche. C'est ça que Dieu veut pas pour les chrétiens. Puis Dieu sert des pressions, des choses du monde, dans le but d'amener les chrétiens à devenir de plus en plus des exemples en parole et en œuvre, des exemples de gens qui ont la foi et qui s'en remettent à Dieu. N'oublions pas que la bénédiction de Dieu appartient à ceux qui recherchent Dieu. Dans 2 Pierre 2,9, ça nous dit « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. » Voyez-vous? Il y a un classement, là. Il y a les injustes. Les injustes, c'est ceux qui vivent dans l'injustice, dans la méchanceté. Eux autres, c'est le jour du jugement. Mais il s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. C'est une promesse. Ça va mal, Dieu a permis que ça aille mal, mais il sait te délivrer de son épreuve. En autant que tu apprends à avoir la bonne attitude dans l'attente d'être exaucé. Comme je disais tantôt, c'est d'accepter la soumission à Dieu. Tu vas vivre des choses difficiles, puis tu te rebelleras pas. Tu vas les accepter, t'en remettre à Dieu, faire confiance à Dieu, puis tu vas agir avec bonté en faisant le bien. Le Seigneur va enlever parmi ses enfants toute forme de rébellion envers lui et sa parole. Quand il nous dit de bâtir notre vie sur sa parole, ça veut dire de continuer à faire confiance à Dieu, puis à bâtir notre foi sur qu'est-ce qui est écrit, c'est ça qui est le roc sur lequel qu'on doit bâtir. Ça dit, la pluie puis le vent va venir, mais la maison va rester debout. Si tu bâtis pas sur la parole de Dieu, ça nous dit que tu vas bâtir ta maison sur le sable, la pluie puis le vent va venir, puis ta maison va s'effondrer. Ta vie va s'effondrer si tu bâtis pas sur la parole de Dieu. Si tu bâtis ta foi, puis tu veux agir comme le Seigneur le demande, tu es en train de bâtir sur le roc, les épreuves vont venir pareil, le vent va venir, la pluie va venir, mais ta maison, ta vie va rester debout. Amen. Faut apprendre cela, frères et sœurs. C'est dans l'épreuve que nous devons espérer en lui et croire ses promesses. Dans 1 Pierre 5,6, ça nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » On voit que l'élévation de celui qui vit quelque chose, c'est quand Dieu a décidé que c'est le temps convenable. C'est encore une question de faire la volonté de Dieu. Lorsque Dieu voudra te sortir de cette situation, de celle que tu vis présentement, ou de moi, pour que je sois sorti de la situation dans laquelle que je vis, c'est Dieu qui décide du temps convenable. Puis il nous dit dans ce verset-là, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Ça veut dire, cherche pas à te rebeller et à vouloir tout casser autour de toi parce que ça marche pas à ta manière. C'est le contraire. Soumets-toi, humilie-toi sous sa main, accepte les choses que tu peux pas changer, tu t'en remets à Dieu pour faire le bien, puis là, Dieu va t'élever au moment convenable. C'est une promesse, mais il y a des conditions. Voyez-vous, quelle est la manière, nos attitudes qu'on doit avoir en attendant de recevoir l'exaucement? Mais c'est une attitude d'humiliation, d'acceptation, de soumission à la volonté de Dieu. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus dut lui-même accepter dans la souffrance à se soumettre à la volonté de son Père. Jésus savait qu'il n'était pas venu pour faire sa volonté. Il dit, dans le livre, il est question de moi, puis il dit qu'il était venu pour faire la volonté de Dieu. Ça nous dit ça dans Hébreu. Jésus savait qu'il était venu pour s'occuper de la volonté de son Père, puis il a accepté, dans la souffrance, de faire la volonté de son Père. On voit ça dans Luc, le chapitre 22, les versets 40 à 44. Jésus était avec ses disciples, il était quelques heures avant que les gens viennent le chercher pour le capturer, le prendre, puis l'emmener, puis le crucifier, le juger, le faire souffrir, puis de le ridiculiser, puis de le crucifier. Jésus savait que son heure était arrivée. Ça dit, lorsqu'il fut arrivé dans le lieu, dans le jardin de Gethsémané, il dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Il a demandé à ses disciples de prier aussi pour avoir la force de passer à travers l'épreuve dans laquelle ils étaient en train de vivre. Tout le monde en vit des conséquences. Quand Jésus était pour être mort, Jésus savait que ses disciples trouvera ça dur, puis que ça sera peut-être même une occasion de chute pour certains. Puis Dieu, Jésus lui a dit de prier pour pas tomber dans tentation. Mais il y a eu plusieurs tentations au moment de l'arrestation de Jésus, comme la tentation de se défendre eux-mêmes, puis de frapper sur ceux qui venaient chercher Jésus. Puis Jésus lui a dit, serre ton épée. Celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Dieu veut pas qu'on prenne des épées pour essayer de changer les affaires, puis de se rebeller à tous les systèmes qui existent, puis à vouloir tout changer par l'épée. C'est pas ça. Dieu veut qu'on apprenne à passer à travers de ce qu'on est destiné en acceptant la soumission à sa volonté. Dans ce passage-là, Jésus dit au verset 41, puis s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, puis s'étant mis à genoux, il pria, disant, parce que là, il savait que son heure était arrivée, mais Jésus avait commencé à être angoissé. Il commençait déjà à souffrir intérieurement, à être en proie à des pensées là, qui étaient en train de le torturer. Les souffrances s'en venaient, puis il n'y a pas grand monde qui aime ça, savoir qu'ils s'en vont souffrir. Fait qu'il a comme paniqué, humainement parlant. Puis ça dit, il pria à son père et dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, » parce qu'il souffrait, puis il savait qu'il y avait de quoi de grave qui s'en venait. « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Voyez-vous, l'acceptation de faire la volonté du Père, de se remettre à Dieu, puis de faire confiance à Dieu, puis si Dieu veut que tu passes par une étape, il faut que tu passes par cette étape-là, puis il faut que tu l'acceptes en te soumettant comme Jésus s'est soumis lors de ses souffrances. Mais il a prié, puis là ça nous dit que Dieu l'a envoyé quand même une consolation, il a dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Merci Seigneur, dans nos moments difficiles, il sait quoi faire pour nous donner du courage, puis nous donner de la force, puis nous donner le goût de continuer à aller de l'avant. C'est pour ça que c'est important de prier lors des tentations. Que lorsque Jésus a dit à ses disciples, veillez y prier afin que vous ne tombez pas en tentation, il avait dit aussi, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Puis il sait comment ce qu'est la nature humaine. Puis là, au verset 44, ça dit, « Étant en agonie, il priait plus instamment, sa sueur devint des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Le moment que Jésus a vécu là, c'était horrible. Être tellement angoissé qu'il suait du sang. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais Jésus, ça lui est arrivé. Puis c'est pour ça qu'il priait le Père d'enlever cette coupe. la coupe de souffrance qu'il est en train de vivre présentement. Mais il s'en remettait à son Père, puis il a dit que ta volonté se fasse et non la mienne. Puis ça nous dit qu'il a prié 3 fois pour cela dans un autre passage. Vous savez, comme le dit dans Hébreux, que Jésus est exaucé au milieu de ses souffrances parce qu'il cherchait sincèrement le secours de Dieu. Dans Hébreux 5:7-8, ça nous dit, « C'est lui, en parlant de Jésus dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Voyez-vous, dans ce passage-là, ça nous démontre comment est-ce que Jésus nous a montré l'exemple. Il a crié à Dieu, il a cherché la face de Dieu, il a demandé du secours à son Dieu, qui est notre Dieu. Il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières en criant des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, puis ça dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Il s'est pas rebellé, il s'est pas révolté, il a pas frappé sur personne, il a accepté en se soumettant à la volonté de Dieu, il a été mourir à la croix, il a eu la force de se rendre, il a accompli ce qu'il était à accomplir. Il a même dit à un de ses disciples, il a dit, « Ne crois-tu pas que je pourrais à l'instant invoquer 12 légions d'anges qui viendraient le délivrer? » Il avait accès à faire ça de même. « Seigneur, tue-les toutes. » Il aurait tout massacré tout le monde qui essayait de faire du mal. Mais jamais qu'il s'est servi des anges pour frapper les autres. Jamais il a maudit les autres. Jamais il a cherché à faire du mal aux gens. Plutôt, il a donné l'exemple d'accepter la souffrance par la foi. Il croyait à son Père, puis il croyait en Dieu, puis il croyait en ses promesses, puis il savait que Dieu était pour le ressusciter. Il a demandé à son Père, puis ça dit qu'il était exaucé à cause de sa piété. Voyez-vous, une autre chose qui doit être dans la vie d'un chrétien, c'est être une personne pieuse, une personne qui cherche la face de Dieu, qui prie Dieu, qui demande de l'aide à Dieu. C'est ça la piété. Des gens qui s'accrochent à Dieu, des gens qui veulent que le Seigneur change leur vie, qui veulent les aider, qui veulent les secourir dans leurs besoins. Jésus a donné l'exemple, puis il a été exaucé. Puis ça nous dit dans ce passage-là qu'il a appris, même s'il était le Fils, il était le Fils de Dieu, là, le Fils unique de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance. C'est ça le but du message aujourd'hui. Croire Dieu et ses promesses pour accepter la soumission à Dieu. Accepter l'obéissance. Accepter de passer à travers ce qu'on traverse. Accepter de vivre ce que Dieu met devant nous. Je dis pas d'accepter la marque de la bête, là. C'est pas ça. C'est d'accepter de les moments difficiles de confinement. On est obligé de les faire, les moments difficiles. Faut les accepter sans se rebeller. Faut dire au Seigneur, secours-nous, on veut sortir de là. Ça, c'est correct. Mais répondre avec la bonne attitude en priant Dieu, en soumettant Dieu, en acceptant les choses qu'on peut pas changer. Puis le Seigneur va nous donner le secours. Il va abréger ses jours à cause des élus. Les jours de souffrance, c'est pas juste celui du combat d'Israël. Dans Matthieu, chapitre 21, ça dit que la tribulation que le peuple juif t'a pour avoir, que Jésus t'a pour l'abréger à cause des élus. Mais il n'y a pas juste ça qui peut être abrégé à cause des élus. Toutes les souffrances que les chrétiens vivent peuvent être abrégées à cause des élus qui prient à lui nuit et jour. Dieu va faire promptement justice. Dieu va exaucer. C'est pour ça qu'il faut apprendre à prier Dieu, à faire confiance au Seigneur, puis à s'attendre de lui dans la soumission, dans l'obéissance, à l'exemple de Jésus, d'apprendre à se soumettre à faire la volonté de Dieu, même quitte à que ça soit d'aller à la mort. On a chanté des chants au début de la réunion qui nous disaient « Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons et les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi, Jésus, pour toujours. Vivre pour Jésus, mourir pour le Seigneur. Aller jusqu'au bout dans la soumission d'accepter ce que Dieu a mis devant nous, ce qu'il a préparé pour nous. La puissance d'égarement qui doit agir sur l'humanité, parce que la Bible en parle dans la parole de Dieu, une puissance d'égarement qui va être envoyée par Dieu, pas juste permis, que c'est Dieu permet, mais c'est Dieu qui envoie une puissance d'égarement pour que tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité en eux, mais ils prennent plaisir à l'injustice puis ils soient condamnés. Les épreuves, la puissance d'égarement qui va être envoyée par Dieu, c'est dans le but d'éprouver le peuple de Dieu, puis que ceux qui ont l'amour de la vérité, c'est ceux qui croient en la parole de Dieu, qui croient Dieu, croient les promesses de Dieu, puis ils veulent vivre là-dessus, eux autres sont attachés à la vérité, ils tomberont pas dans la puissance d'égarement. Contrairement à tous ceux qui ont laissé tomber la Bible, ils ont lancé le Bible, puis ils vivent une religion inventée avec des raisonnements humains qui n'a pas rapport avec les écrits de Jésus puis de ses apôtres. Mais la puissance d'égarement va venir dans ce monde, puis elle doit agir sur l'humanité, puis elle va amener les gens à pu agir, puis à réagir selon la parole de Dieu. Ça va amener les gens à se rebeller contre les écrits. La puissance d'égarement amène les gens à se détacher de ce qui est écrit, puis ça amène les gens à marcher dans des religions faites par les hommes. Jésus veut garder ses enfants dans sa parole, qu'on bâtisse notre vie sur sa parole. Il faut avoir l'amour de la vérité pour être sauvé. Il faut rester dans la vérité, demeurer dans la vérité, puis la vérité va nous rendre libres. Il faut faire attention de ne pas chercher notre volonté, mais celle du Seigneur. Où est-ce que je l'apprends? Où est-ce que j'apprends la volonté du Seigneur? Il faut lire la Bible. C'est dans la Bible qui est la base de toute la volonté du Seigneur. Les enseignements de Jésus et des apôtres, c'est la Bible qui nous dit ce que Dieu veut. Fait que si on cherche notre volonté, on va réagir de façon contraire à ce qui est écrit. La puissance d'égarement va amener les gens à marcher dans ce monde, à réagir d'une manière contraire aux écrits bibliques. Il faut faire attention, on n'est pas là pour chercher notre volonté, il faut être comme Jésus, dit toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Si on veut faire la sienne, on va marcher selon sa parole. Le Seigneur n'appelle pas les chrétiens à se rebeller, même aux autorités. Les autorités qui sont là sont mises en place par Dieu. C'est Dieu qui a mis les autorités, puis les autorités... Présentement, parce que je vois sur Internet qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent, qui font des vidéos, puis essayent d'amener les gens à se rebeller à tout ce que l'autorité fait, ou tout ce que l'autorité dit. Mais ça, c'est une rébellion contre les autorités. Parce que les autorités, présentement, sont pas en train d'empêcher les chrétiens d'être chrétiens. Au contraire, il y a une plaie, présentement, qui frappe l'humanité, puis les gens croit que vu qu'on n'a pas de remède, faut attendre qu'il y ait un remède, que Dieu nous révèle, qu'il révèle à quelqu'un un remède, puis que là, en attendant, faut éviter de s'approcher des autres par rapport qu'on peut être contaminé, ou même si on ne tombera pas malade en étant contaminé, on peut contaminer une autre personne. Donc, la logique humaine, c'est faisons attention, restons chacun chez nous pour un moment, le temps qu'on trouve quelque chose pour soigner les gens. C'est ça qui est le plan de Dieu. Puis qu'on se mette à crier à Dieu parce qu'on réalise notre état, puis on demande de l'aide, du secours au Seigneur. Puis Dieu va amener tous les gens de ce monde à crier à lui pour être secourus. Puis les gens, en criant à Dieu, vont être secourus. Dieu y est fidèle. On ne sommes pas les premiers dans la création à vivre ce genre d'événement-là. Puis les autres siècles étaient moins équipés que nous, puis ont vu à vivre ces choses-là avec moins de moyens pour s'en sortir. Fait que on a tout à gagner de s'accrocher à Dieu, de faire confiance à Dieu, puis d'y demander de l'aide. Amen. Mais il faut apprendre à se soumettre aux autorités, parce que les autorités sont instituées de Dieu. Puis ils nous demandent pas de pécher contre Dieu, là. Ils nous demandent de faire attention en restant chez soi. Puis la rébellion, c'est que les gens protestent, puis ils veulent dire, ils veulent garder quand même leur liberté, puis ils veulent quand même se côtoyer, malgré que c'est plus sage de rester chez nous et de faire attention en attendant que les remèdes existent. Dieu dit de soumettre aux autorités, puis il dit même de prier pour les autorités. Fait que encore la prière est d'actualité, de prier pour s'approcher de Dieu, mais de prier aussi pour que les autorités prennent les bonnes décisions. Il ne nous demande pas de prendre l'épée puis d'aller combattre les autorités. C'est pas de Dieu, cette rébellion-là. C'est pas d'accepter la volonté de Dieu. Jamais Jésus a pris l'épée pour frapper quelqu'un, puis quand un de ses apôtres a voulu le faire, Jésus l'a repris. Il l'a reprimandé, puis il a dit de serrer son épée. Il a dit, si tu prends ton épée, tu vas périr par l'épée. On n'est pas appelé à combattre par l'épée de la chair, on est appelé à combattre par l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, croire les promesses, confesser les promesses, prier Dieu, puis demander l'aide à Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 2, les versets de 1 à 4, ça nous dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Dieu veut qu'on prie pour tout le monde, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Voyez-vous? Dieu veut qu'on prie pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, c'est les premiers ministres, les présidents, peu importe le titre de premier personnage d'un pays, faut prier pour eux afin qu'ils prennent les bonnes décisions. Faut pas inciter la révolte puis la rébellion. Faut au contraire être avec eux puis les appuyer en prière. Là, les choses vont changer. Qu'est-ce que ça va amener au bout? Ça nous le dit dans ce verset-là. Il dit de prier pour les rois, ceux qui sont en dignité, afin qu'on mène une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Si on veut vivre une vie paisible et tranquille, on aime ça, une vie paisible et tranquille, mais prie pour ton gouvernement. Arrête de critiquer contre. Puis il y a même un autre passage qui dit, tu ne parleras pas en mal contre le chef de ton peuple. Tu dois prier pour lui. Puis là, Dieu va bénir, puis tu vas vivre dans la paix. Tu vas vivre dans la piété même, puis dans l'honnêteté. Ça veut dire que ça va t'être permis que tu pries, puis tu marches dans l'honnêteté. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est bon pour Dieu, quand il nous voit prier pour nos gouvernements, pour ceux qui sont en autorité, qu'on arrête de critiquer, puis qu'on prie pour eux, pour qu'ils soient bénis, éclairés, révéler des pensées, les meilleures affaires, puis on peut prier pour ceux qui sont les chercheurs, qui cherchent les remèdes, pour que Dieu les bénisse, leur donne les choses, les bonnes choses, tout don excellent, toute grâce parfaite. Les dons, les meilleurs dons viennent de Dieu. Les dons qui guérissent, puis les dons aussi en médicaments que Dieu a pourvus, c'est bon. Même s'il y a des défauts, il n'y a rien de parfait. Dieu guérit des personnes, puis en protège des personnes par les médicaments. Il faut arrêter la propagande de messages contre les médicaments, puis les effets secondaires. Oui, il y a une personne sur 100 000 qui est peut-être une réaction négative sur un médicament, mais il y en a 99 999 qui ont été sauvés par ce médicament-là. Aimons-nous mieux, parce qu'on veut garder notre liberté, de dire, ben, je veux que personne prenne de médicaments puis que tout le monde meure. Est-ce logique? Est-ce logique que je ne veuille pas être protégé contre une maladie pour que je la poigne puis je la transmette aux autres que je connais? Il n'y a rien de logique là-dedans. Si on veut vraiment se soumettre à la volonté de Dieu, on va attendre patiemment, comme ça a été dit par le Saint-Esprit dernièrement, qui nous dit « rentre dans ta chambre puis attends que la colère passe ». C'est une parole du Saint-Esprit. Il dit d'attendre. Dieu va être notre secours. Apprenons plus à prier, puis à demander l'aide au Seigneur, puis il va la donner. Faut se soumettre. Dieu veut voir notre fermeté en lui, nos efforts à rechercher, à poursuivre la paix, l'amour, l'unité. Dans Romains 12, 18, ça nous dit, « S'il est possible, autant que ça dépend de nous, soyez en paix avec tous les hommes. » Il n'y a pas de place pour qu'un chrétien se querelle contre les autres, cherche à renverser les choses, à faire le mal. Soyons en paix avec tous les hommes. Nous sommes les artisans de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. N'oubliez pas ça, c'est une parole de Jésus. La bénédiction de Dieu sera sur ceux qui vivent dans le bien. Puis même, ils seront exaucés. Dans 1 Pierre 3, les versets 10 à 12. Si quelqu'un veut aimer, en effet aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal, qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ce passage-là est clair. Tous les chrétiens doivent apprendre à vivre dans le bien. Tu veux aimer la vie puis voir des jours heureux, arrête de parler en mal puis de dire des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, fais le bien. Recherche la paix, poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, parce que Dieu considère juste ceux qui poursuivent la paix. Dieu aime voir les gens heureux, ceux qui procurent la paix. Dieu cherche les gens qui procurent la paix. Puis regarde, ses yeux sont sur les justes, puis ses oreilles sont attentives à leurs prières. On veut être exaucé, on veut vivre une vie de piété bénie, dans le sens on prie Dieu puis que Dieu nous exauce. Il faut marcher de la bonne façon, parler de la bonne façon, agir de la bonne façon, se soumettre à la volonté de Dieu. Il dit, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. On s'endurcit, on se rebelle, on marche tout croche, mais Dieu n'aime pas ça, puis on ne sera pas exaucé. Dieu a une belle promesse pour ceux qui espèrent en lui lors des épreuves. Dans Apocalypse 3:10, il dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Parce que tu as la parole de la persévérance en Jésus, parce que tu veux suivre le Seigneur, tu persévères dans sa parole, tu veux marcher en lui, tu veux t'accrocher à lui, tu veux pas le lâcher, tu veux être un exemple dans ce monde. Mais Dieu, Jésus, il dit lui-même qu'il va nous garder à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. La tentation, le mot que là, c'est le mot épreuve, mise à l'épreuve, être éprouvé. Ça nous dit que le monde en entier va être éprouvé. C'est ce qu'on est présentement, c'est une des épreuves. Il va en avoir d'autres épreuves. Chaque saut, chaque trompette, pas des sauts, les sauts et les trompettes, qui sont annoncés dans l'Apocalypse, c'est des choses qui sont déversées sur l'humanité, puis que c'est des épreuves pour tout le monde dans le monde. Les ceux qui connaissent Jésus, comme ceux qui ne connaissent pas Jésus. Puis c'est des épreuves qui viennent sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dieu met à l'épreuve, mais dit que si tu gardes la persévérance en lui, il va te garder, il va te protéger, il va être avec toi dans cette épreuve-là, puis il va t'aider à passer à travers avec sa force, comme Jésus a eu la force du Seigneur, fortifié par un ange, pour avoir la force d'aller en avant, puis passer à travers ses souffrances, malgré ses angoisses, puis accepter les jugements des hommes, puis de se faire mettre à mort. J'ai un dernier verset qui nous exprime vraiment la pensée du chemin du Seigneur. C'est par le prophète Osée, dans Osée 14, verset 9. « Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront. » Mais les rebelles y tomberont. Voyez-vous, quand je disais que c'est dans le chemin de notre vie qu'on démontre, au milieu des épreuves, qu'on démontre quel genre de personne que nous sommes. On est-tu un vrai chrétien ou on est un chrétien qui dit chrétien mais ne vit pas en chrétien? Les voies du Seigneur sont droites, les justes y marcheront. Fait que si tu es une vraie brebis du Seigneur, tu vas marcher selon ses paroles, parce que tu vas marcher d'une manière droite. Mais les rebelles, ils tomberont. Nous n'avons rien à gagner d'être rebelles face à ce que Dieu permet devant nous, devant Dieu, quand on croit sa parole ou on y croit pas, on veut le suivre ou on veut pas le suivre. Si on se rebelle, on va tomber. Si on marche avec le Seigneur, on va garder ses voies justes. Comprenons-nous le message du Saint-Esprit aujourd'hui? Dieu veut amener son Église dans une acceptation de sa volonté. C'est pas un hasard. C'est pas arrivé sans que Dieu le sache. Dieu sait très bien ce qui arrive présentement, puis il veut que tout le monde apprenne à se tourner vers lui, à le supplier, à s'attendre de lui son exaucement, puis à se soumettre à ce qui est mis en place comme règlement. Je te parle à toi qui m'écoutes. As-tu fait la paix avec Dieu? As-tu reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel? Je vais faire une prière pour donner l'occasion à tout le monde de se tourner vers le Seigneur, pour s'engager à le suivre, puis à le servir. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu t'a pardonné. Même si tu es un chrétien de longue date, puis tu as fait cette prière, Dieu t'a pardonné. C'est en confessant de ta bouche que tu es un pécheur, puis en croyant du cœur que Dieu y a envoyé son Fils Jésus pour mourir pour toi, c'est là que tu vas être sauvé. Gardons la foi dans le Seigneur. Accrochons-nous à ses promesses, soumettons-nous à sa volonté, puis nous verrons sa main agir dans nos vies.